Karine parce que c'est aussi une personne que j'ai poursuivie. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est dans Linux Chix, j'ai cherché un nom francophone en me disant ça se trouve, elle ne sera pas trop loin et on pourra la faire venir. Et elle est venue tout de suite. Et donc, je trouvais, encore une fois, c'est dommage les stagiaires, mais bon, le samedi, c'est compliqué. Parce que Karine travaille, mais aussi à un moment, elle s'est mise au logiciel libre, et à un moment, elle s'est mise à dire ce truc-là, ça ne marche pas, et je vais un peu contribuer à ce projet. Et donc, je lui ai dit que vous étiez plus ou moins tous et toutes utilisateurs, utilisatrices de logiciels libres, mais qu'il y a. Ou intéressés, et de se dire, mais comment est-ce qu'on fait alors vraiment pour mettre les mains dans le cambouis et y aller? Parce qu'une des choses que nous, on raconte, c'est qu'il y a cette possibilité de dialogue, il y a cette possibilité de participer. Et personnellement, à part vous rencontrer, je n'ai jamais fait réellement ça. Donc, il ne faut pas sous-estimer ses capacités, c'est une partie. Voilà. Donc, je vais inviter quelqu'un qui le fait. Et que c'était vrai. Donc, on va l'enregistrer et on aura la preuve que c'est possible. Je suis désolée, je ne peux pas rester. Voilà. Merci beaucoup. Tu as de l'eau?
J'ai ce qu'il faut.
Voilà. Alors, tout à l'heure.
Ok, donc le projet auquel je participe, moi, c'est GIMP. Je vais faire la conférence sur ce projet-là parce que c'est celui que je connais le mieux, mais c'est vrai que pratiquement tous les projets open source sont des façons de voir les choses assez semblables et donc ça s'applique à la plupart des projets. Si vous avez envie de participer à autre chose, normalement, vous devriez apprendre à l'utiliser quand même. La présentation est disponible sur le net à l'adresse qui est là, si vous voulez y revenir plus tard. Donc, quelques idées fausses sur le projet GIMP en particulier et puis sur d'autres projets aussi, c'est qu'on pense souvent qu'il y a déjà plein de monde qui travaille dessus, c'est bon, c'est un vieux projet, pas la peine de venir mettre sa page là-dedans. En fait, est-ce que quelqu'un sait combien il y a de développeurs qui travaillent sur GIMP? Est-ce que vous pouvez essayer de deviner combien de gens, combien de contributeurs open source? Bon, en fait, il y en a deux. En tout cas, qui travaillent vraiment, qui toutes les semaines font quelque chose dessus. Ensuite, il y a des développeurs occasionnels aussi, qui sont, on va dire, une bonne vingtaine, mais qui viennent, qui repartent, qui reviennent, qui, disons, font quelque chose à peu près une fois par mois en moyenne. Donc ça fait pas vraiment beaucoup de monde, vu le nombre d'utilisateurs qu'il commence à y avoir pour GIMP, et leur demande, surtout faire comme Photoshop, vu leur demande, ça fait pas beaucoup de monde pour faire tout ça. Et une autre idée fausse, c'est trop dur, je vais jamais y arriver, je sais pas coder, ou alors je sais un tout petit peu, mais non, mais là c'est trop dur. En fait, il y a plusieurs manières de contribuer à un projet open source, il n'y a pas que le code, et même quand on est débutant, c'est possible. Donc, plusieurs manières de contribuer. Déjà, il y a le support aux utilisateurs, parce qu'ils sont beaucoup, énormément, par rapport au nombre de développeurs, comme je disais. Donc, bien connaître l'application et les aider, bah, leur donner des fausses informations, évidemment. Ça, c'est déjà quelque chose qui nous aide beaucoup, parce que au moins, on peut s'occuper du reste. Ensuite, une fois qu'on connaît vraiment l'application, on commence à voir les choses qui ne marchent pas bien, et on peut rapporter ses premiers bugs. Donc on regardera tout à l'heure comment on fait ça. Et ça, un bug bien rapporté, c'est quelque chose de très utile pour les développeurs. Après, GIMP, c'est un projet qui a un système de plugins, un peu comme Firefox et des extensions. Donc les utilisateurs peuvent ajouter un bout de code externe qui va rajouter des fonctionnalités à GIMP, sans avoir pour ça besoin de rentrer dans le code de GIMP, voir comment c'est fait. Donc quand on veut commencer, quand on débute dans le développement et qu'on veut faire un petit truc, ça peut être un bon moyen de commencer. Il y a la documentation aussi, pour les gens qui aiment bien écrire. Il y a un projet de manuel écrit dans toutes les langues, enfin traduit. D'ailleurs, il y a la traduction aussi, que ce soit pour l'interface de l'application ou que ce soit pour la documentation. Donc ça, c'est deux tâches qui demandent absolument aucune connaissance du code, juste pareil, connaissance de l'application, et puis d'une langue étrangère, accessoirement. Il y a les sites web officiels de GIMP, qu'il faut maintenir, même chose, vu qu'on n'est pas beaucoup de développeurs, maintenir ces sites web, c'est aussi difficile, en termes de temps en tout cas. Donc quand il y a des gens qui connaissent un peu le web, qui viennent proposer leur aide, c'est toujours bien. Et puis, il y a le code. Mais comme vous voyez, c'est vraiment pas la seule façon de contribuer. Alors, pour le support utilisateur, il y a une liste de diffusion qui s'appelle GimpUser. Je vais vous montrer la page de toutes les listes de GIMP, il y en a pas mal. Ah, ouais, c'est bon. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à un tas de listes qui concernent GIMP. Il y en a vraiment beaucoup. Et pour le support utilisateur, il y a pas mal d'utilisateurs qui s'abonnent à ces listes pour poser des questions. Donc ça peut être, même quand on ne connaît pas encore, un bon moyen de connaître bien l'appli parce qu'on voit les questions qui reviennent régulièrement, on voit comment les gens qui connaissent bien répondent. Et on en apprend au fur et à mesure. Moi-même, j'y suis abonnée et des fois, j'apprends des choses que je ne savais même pas, alors que je suis pourtant développeuse du produit. Il y a des canaux IRC sur Freenode pour les utilisateurs. Donc, pour ma part, je connais celui qui est anglophone et celui qui est francophone. Il y en a certainement d'autres en d'autres langues, je ne les connais pas. Et puis, il y a des nombreux forums de discussion pour ceux qui préfèrent cette... cette façon de communiquer, c'est vrai que les mailing lists, c'est un petit peu... Enfin, il n'y a pas d'interface graphique, tout ça, donc il y a des gens qui n'aiment pas trop. Donc après, les forums de discussion ne sont pas officiels, mais il y a pas mal de communautés qui se sont créées autour de GIMP, dans différents langages. Et donc, ça peut être aussi intéressant de participer aux forums pour aider les personnes. Il y a des gens qui écrivent des tutoriels. Alors ça, montrer ce que vous savez faire avec GIMP et écrire un tutoriel sur comment vous l'avez fait, c'est très positif pour le projet puisque ça permet aux gens de voir comment utiliser le produit et qui l'utilise et comment et ce à quoi on peut arriver. Donc ça c'est une façon de contribuer aussi très importante. Et puis on peut participer aux conférences. Il y a eu cette année le Libre Graphics Meeting à Lyon qui regroupait tous les projets open source qui ont un rapport plus ou moins proche du graphisme. Donc que ce soit la 3D avec Blender, Scribus, enfin, Inkscape, tout ça. Et puis il y a des conférences GIMP, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Donc, voilà, je parle pas. Une autre façon de contribuer, donc, c'était d'ajouter des plugins. Donc ça c'est pour ceux qui ont envie de toucher un petit peu au code, mais qui sont encore un peu effrayés devant le gros mammouth qu'est le code de GIMP, parce que c'est vraiment assez gros. Alors, sur le site de GIMP, il y a un joli didacticiel qui explique en plusieurs parties comment faire un plugin. Donc c'est très très détaillé, ça explique vraiment tout, donc pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. Il y a aussi un squelette, on part pas d'un fichier vide. Donc on a un fichier et puis on commence à écrire ces fonctions dedans. Alors un plugin, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut être un filtre qui fout une image, ça peut être un nouveau format de fichier qui va être géré, ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi. Donc on peut commencer par ça pour s'amuser ou alors pour vraiment rajouter quelque chose qu'on peut rajouter. Et il y a un site qui regroupe tous les plugins qui ont été écrits par les divers contributeurs. Et ça peut être intéressant d'y jeter un coup d'œil et de regarder le code de certains plugins pour pouvoir s'en inspirer. Donc avec une interface de recherche, parce qu'il y a plusieurs langages dans lesquels on peut écrire les plugins, selon qu'on est plus à l'aise en Scheme, en Perl, en C. Donc c'est aussi un avantage parce que, contrairement au code de GIMP qui lui est exclusivement écrit en C, les plugins vous pouvez les écrire aussi. Il y a un binding Python qui va être rajouté aussi, pour ceux qui aiment bien Python. Non, il y a déjà. Python, c'est un binding Ruby qui va être rajouté, bref. Une autre tâche possible, c'est donc la documentation. Avec deux ressources qui sont la page qui concerne toute la documentation et comment l'obtenir. Et puis, le vrai manuel utilisateur, il est très très complet. Ça pourrait être un bouquin s'il était imprimé. Donc, maintenir ça à jour par rapport aux évolutions du produit et maintenir les traductions à jour, c'est quelque chose d'assez énorme. Donc, heureusement, qu'on a des contributeurs qui font ça. Vous voyez, c'est vraiment monstrueux. Ça explique tout. Parce qu'il y a déjà une bonne centaine de filtres dans GIMP, d'ailleurs actuels, qui ne sont pas des plugins à part, mais qui sont déjà dans GIMP. Donc ça explique tous ces filtres, tous les outils, toutes les options, enfin bref. C'est très bien fait, mais difficile à laisser à jour. Et donc, les gens qui s'occupent de la documentation ont aussi leur mailing list, dans la liste qu'on a vue tout à l'heure, là, qui s'appelle GIMP Docs. Et puis, il faut qu'ils apprennent à utiliser CVS. Aujourd'hui, il y a des projets libres qui sont pour lesquels il est plus simple de contribuer à la documentation, parce qu'il suffit d'aller sur une interface web et de traduire ou d'ajouter des éléments. Pour GIMP, c'est encore CVS. Bon, il y a le pour et le contre. On verra tout à l'heure comment marche CVS. C'est vrai que normalement c'est réservé aux développeurs, mais bon, ça ne devrait pas faire peur. La traduction, donc deux possibilités, comme je disais, soit traduire l'interface elle-même de GIMP, les menus, etc. Et donc pour ça, en fait, c'est comme si on était un développeur, donc on va s'abonner à la liste GIMP développeur dont je vais parler tout à l'heure, et obtenir le module CVS des développeurs. Soit on traduit le manuel utilisateur, et là on se comporte comme un documentaliste, on s'abonne à leur liste à eux, et on prend leur module CVS. Les sites web, il y en a deux. Il y a le site des utilisateurs, qui est bleu, avec... On doit être configuré en anglais, là, pour tourner en anglais, mais c'est pas grave. Avec pas mal d'infos sur la doc, comment obtenir GIMP, etc. Donc, pour participer à ce site web-là, il y a une liste qui s'appelle GIMP Web et un module CVS du même nom. Et il y a le site des développeurs. Il est vert. Voilà, avec les dernières nouvelles de développement, avec comment obtenir les modules CVS, etc. Pas mal d'explications. Aussi, un résumé de ce qui s'est passé dans les dernières conférences GIMP. Celle-là, c'est le Bureau Graphics Meeting dont on parlait tout à l'heure. Donc, pour le site web des développeurs, il n'y a pas de mailing list à proprement parler, il y a juste un module CVS. En fait, le site web des développeurs est principalement géré par les développeurs actuellement. Donc, on n'a pas rajouté de mailing list exprès pour ça. Alors, le code, là, par contre, il y a besoin de plus d'éléments. Déjà, avant de coder, il faut savoir rapporter un bug et le chercher. GIMP utilise le Mozilla de GNOME. D'ailleurs, on utilise plein de choses de chez GNOME, le CVS, etc. On fait partie de la grosse machine GNOME. Voilà le Mozilla de GNOME. Il va falloir que je m'identifie si je me souviens de quoi. Donc, à quoi ça sert d'avoir un système aussi compliqué où il faut encore s'identifier ? En fait, je me souviens pas. Bon, on verra si on peut se passer de ça. À quoi ça sert d'avoir un système aussi compliqué ? Donc, il y a des gens qui pensent qu'il suffirait d'envoyer un mail à un développeur et puis voilà, ça suffit. Il y en a qui le font d'ailleurs. De temps en temps, je reçois des mails d'utilisateurs qui me demandent quelque chose. Mais ça peut très bien être une partie du code de GIMP à laquelle je ne connais absolument rien, donc c'est un petit peu dommage de ne pas en faire profiter à tous les développeurs. Au moins Mozilla, on y est tous abonnés, on reçoit des alertes à chaque fois qu'il y a des nouveaux bugs, donc on sait si ça nous concerne ou pas. Et puis Mozilla, si l'utilisateur change d'email, etc., ça va garder la trace de tout ça, alors que si il y a quelque chose qui nous a été demandé il y a un an, et puis que tout d'un coup, ça y est, c'est enfin possible, et que la personne a changé d'email et qu'on ne peut plus la contacter, c'est un petit peu dommage. Enfin voilà, un système un peu complexe. Allez, je vais refaire un essai. Parce que ce serait mieux qu'on ait toute l'interface. Tant pis. Alors, quand même, on va pouvoir faire quelques petites choses. Pour rapporter un bug, je crains que...
Thank you.
C'est dommage parce que ce serait bien que vous voyiez l'interface de reportage de bug. Pardon ? Oui, on peut créer un compte, c'est vrai. Je ne sais pas s'il va falloir ensuite aller voir l'email que ça va nous envoyer. Bon, on peut essayer, c'est vrai. Allez, c'est rappelez-vous vite. Ou alors quelqu'un de nous aussi. Alors. Cela dit, il n'y avait pas un truc forget my password. Bon, tant pis. Alors, comment on crée un compte? Quelle annonce je mets? Est-ce que je vais réussir?
Mais, si tu veux, tu peux mettre test at le compte.
Test at
le net. At. C'est la gage.
Clubnet?
Non, Clubnet.
Clubnet. Ah là là, c'est pas le même clavier que chez moi. At.
Clubnet pour
moi. Ouais. Il manque 1, 2. Ok. Ouais, il faut aller voir le mail. Alors. Tu peux.
Oui, mail.
Ouais, ouais.
Oui, mail pour lui mettre en parole.
On l'a pas encore.
Il risque de mettre une dizaine de minutes à l'heure.
Pardon ?
Il risque de mettre une dizaine de minutes à l'heure.
Ok. Bon, en attendant, on va regarder l'interface de recherche parce que celle-là, je suis pratiquement sûre qu'il n'y a pas besoin d'avoir un compte. Ok, alors, deux onglets pour l'interface de recherche. Il y a l'onglet simple, il y a juste un champ, où on tape un mot et puis on essaye de voir. Mais comme c'est tout le Bugzilla de GNOME, il y a énormément de projets qui sont concernés, il y a déjà tout GNOME, pratiquement tous les projets qui utilisent GTK en fait. Parce que GIMP, c'est pas vraiment une partie de GNOME, mais... Et l'interface compliquée qui a beaucoup de champs. Alors tout n'est pas intéressant là-dedans, je vous rassure. Bon déjà, il faut réussir à trouver GIMP là-dedans. Dans cette... Voilà, je vous disais, il y a beaucoup de projets, il y en a vraiment beaucoup.
Bon, ça c'est pour signaler un bug.
Ouais, tout à fait. C'est l'interface qui permet, entre les utilisateurs et les développeurs. Alors, GIMP, c'est dans autre, ça allait le savoir. Mais... Non, raté, c'était lui. Ok, donc il y a déjà ces deux choses-là qu'il faut connaître. Après, ce qui est important, c'est la version de GIMP que vous êtes en train d'utiliser. D'ailleurs, c'est un bon moyen de voir s'il y a quelque chose de plus récent. Il y a deux branches actuellement. Il y a 2.2 qui est la version stable, que la plupart des utilisateurs ont installée chez eux. Donc par exemple, si vous êtes en 2.2.8, vous vous rendez compte que depuis, il y a trois nouvelles versions. Donc avant de rapporter le bug, vous téléchargez la nouvelle version pour être sûr qu'il n'a pas été corrigé depuis. Et puis 2.3 qui est la version en cours de développement, donc pour les vrais testeurs qui utilisent les versions 2.3. Pareil, même chose, si vous n'utilisez pas la dernière 2.3, il vaut mieux passer à la dernière. Ok, donc ça, on va dire que je suis sur la dernière version de développement. Ici, ça permet de rechercher dans le titre du bug. Ici, ça permet de rechercher dans les commentaires du bug. Quand on ne trouve pas ce qu'on veut dans le titre, des fois, on peut aller chercher jusque dans les commentaires. Il y a les mots-clés ici dont je reparlerai tout à l'heure parce qu'il y a un mot-clé qui est très intéressant. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Quand on cherche des bugs, le statut peut être important parce que par défaut, il va prendre que les bugs qui sont encore ouverts, ceux qui n'ont pas été encore corrigés. Alors que si on cherche un bug pour voir si il a déjà été rapporté ou pas, il vaut mieux rajouter tout ce qu'il y a là pour vraiment chercher Parce qu'en général, quand on va essayer de rapporter un bug, la première chose à faire, c'est donc de vérifier que la version est bien la dernière possible. Et aussi que le bug n'a pas déjà été rapporté par quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que si jamais il a été déjà rapporté et corrigé, ça peut être bien d'inclure les statuts qui sont là. Et puis c'est tout. Le reste, c'est franchement de la recherche très avancée qui sert à rien. Donc après, on va cliquer sur search là. Alors, une petite recherche sur... je suis sûre qu'il y en a plein qui vont me raconter que Gimp ça crash. Et donc là, on va se retrouver avec un seul bug. Ah bah tiens. Ah bah je pensais en avoir beaucoup plus. Actuellement, il y a 300 bugs ouverts pour Gimp. C'est beaucoup. Alors, est-ce que notre email est revenu? Pas encore. Bon, vous avez quand même pu voir à travers l'interface de recherche un peu à quoi peut ressembler l'interface de pour rentrer un bug dessus. On y a laissé tout à l'heure, on verra. Donc, quand on tombe sur un bug, si on a des messages d'erreur, on les recopie exactement. Enfin, normalement, on peut faire un copier-coller au cahier, j'espère, parce que recopier un message d'erreur, c'est pas toujours très passionnant. C'est important d'avoir toutes les conditions du bug précises, parce que juste dire ça plante, ça marche pas comme ça devrait, ça nous aide pas beaucoup en fait. Ensuite, comme je disais, vérifier si le bug n'a pas déjà été rapporté, donc avec l'interface de recherche qu'on voit là. Donc on regarde la version GIMP qu'on a pour dire dans quelle version le bug est arrivé. On essaye de le reproduire pour être sûr que c'est pas un truc qui est arrivé juste comme ça et qu'on sait pas vraiment pourquoi c'est arrivé. Donc si on arrive à donner une façon détaillée de reproduire le bug, ça c'est très intéressant pour nous. Parce que du coup on va essayer de faire la même chose et si on voit que le bug arrive aussi, on va savoir exactement comment le reproduire. Et puis ensuite, remplir le rapport de bug, on verra si on peut faire ça tout à l'heure. Pour rechercher un bug, donc, ça c'est ce qu'on vient de voir, on choisit GIMP dans le produit. Les commentaires permettent d'aller chercher un petit peu plus loin. Les mots-clés, il y a un mot-clé très intéressant dont on parlera tout à l'heure. Et inclure les bugs corrigés dans le statut pour voir si quelqu'un n'a pas déjà rapporté le même bug et qu'il n'a pas déjà été corrigé. D'ailleurs, ce bug-là permet, quand on a une recherche intéressante, de sauvegarder sa recherche. Donc là, si on était sur mon compte, on verrait toutes les recherches sauvegardées que j'ai, parce qu'il y en a que je relance souvent pour voir s'il y a des nouvelles choses qui sont arrivées dans ces choses-là. Alors, pour la part de...
Une question sur les rapports de bug, je n'ose jamais les envoyer, parce que je ne sais pas... Enfin... Je ne suis pas bien en anglais et je me dis le rapport en français, là, ça ne me dira rien.
C'est vrai que, alors si vraiment on a un anglais impossible, vaut mieux encore faire un rapport en français parce qu'avec un peu de chance, il y aura un développeur ou un contributeur qui parlera en français et qui, au minimum, rajoutera un commentaire pour traduire ce que tu as écrit. Franchement, quelqu'un qui rapporte bien un bug, je veux dire de façon claire, précise, détaillée, même si c'est en mauvais anglais, même si c'est en français, c'est toujours bien. Donc, faut se lancer, quoi. Après, c'est vrai que sur le channel GIMP.fr où il y a les utilisateurs francophones qui viennent, on en aide parfois à écrire leur rapport de bug, soit parce qu'ils connaissent pas bien l'anglais, effectivement, soit parce que c'est la première fois, qu'ils ne connaissent pas trop. Donc, pourquoi pas, hein, venir sur IRC pour une petite aide. Ok. Alors, pour la contribution au code, donc ça, c'est une des choses que je fais avoir. La mailing list concernée, c'est la liste GIMP développeurs. Il y a aussi un canal IRC, mais qui n'est pas sur Freenode, qui est sur GIMP.net, qui est pareil, un réseau IRC plutôt pour GNOME. Donc on retrouve tous les développeurs de GNOME et des sous-produits GNOME qu'on a pu voir dans le GIMP. Donc bon, c'est un petit peu déconseillé aux utilisateurs d'aller poser des questions, comment dire, basiques là-bas, parce que les développeurs ont tendance à être un peu impatienté, mais bon. Puis même chose, pour la contribution au code, rencontrer les autres développeurs, c'est toujours bien. Donc participer aux conférences. Alors, on commence par essayer de compiler une version stable de GIMP.
quand on veut contribuer au code. Il y a un FTP sur lequel il y a toutes les versions stables, ou alors si on veut se lancer tout de suite dans la dernière version instable, pareil, il y a un répertoire du FTP qui a toutes les dernières versions instables. Hop, on va regarder à quoi ça ressemble. Et je vais fermer un peu mes onglets. Voilà, plein de versions stables depuis la 2.2.0 jusqu'à la dernière en ce moment qui doit être la 2.2.11. Hein, c'est pas trié par chiffre, c'est trié par ordre alphabétique. Voilà. Donc on récupère. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers de l'OS Linux ici ou s'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Sinon, Linux, ouais. Parce que être contributeur sous Windows, c'est franchement très très difficile. C'est possible. Il y a une personne qui a réussi à faire la recompilation complète de tout le système sous Windows. De toute façon, il faut forcément, puisqu'on distribue aussi GIMP pour Windows, donc il faut quand même que ça puisse marcher, qu'on arrive à compiler. Mais franchement, pour quelqu'un qui débute, c'est vraiment pas le meilleur moyen. Ça demande des connaissances du système Windows et des interfaces de programmation sous Windows que la plupart des développeurs de GIMP n'ont pas, donc en plus ils pourront pas vous aider s'il y a un problème. Donc voilà. C'est pour ça que là, c'est tous des fichiers GZ, donc des choses qu'on a l'habitude de voir sous Linux plutôt. Donc clairement, l'environnement de développement favorisé par GIMP, c'est Linux. Alors, quand on récupère ça, donc un fichier GZ, c'est une archive, on la décompresse et, très classique pour ceux qui ont déjà compilé quelque chose sous Linux, on lance une script qui s'appelle configure. Ça va vérifier que votre système a tout ce qu'il faut pour compiler GIMP. Donc là, grâce au script configure, on va pouvoir savoir toutes les choses qu'on va devoir installer parce que GIMP en dépend. En général, la première fois qu'on essaye de compiler GIMP, le configure, il plante une dizaine de fois pour nous dire « Non, il me manque ça, donc on installe, on recommence, ah, il me manque ça, bref. » Un tas de dépendances à installer, c'est assez gros quand même ce qu'il faut, donc si vous avez une toute petite machine avec un tout petit disque, c'est pas une bonne idée. Je sais même pas combien de place en tout, avec les dépendances, combien ça prend, je pourrais même pas vous dire. Il y a des options au script configure qui sont intéressantes, qui sont l'option moins préfixe, qui permettent, une fois que vous avez compilé, d'installer GIMP dans un endroit, comment dire, à part, pas les chemins habituels dans lesquels se retrouvent les applis, c'est-à-dire /usr ou ces choses-là. Par exemple, moi, je l'installe dans mon répertoire à moi, dans mon monde directory, enfin dans un sous-répertoire, mais pour être sûr que si je fais n'importe quoi, le GIMP de mon système ne va pas être impacté par ça. Bref. Après, il y a aussi des options qui permettent d'enlever le support, par exemple, de l'impression, quand on a... Je ne voulais pas installer toutes les dépendances qu'il fallait installer pour l'impression alors que je n'ai pas d'imprimante. Bon, après ça c'est des choses qu'on peut demander, on peut demander de l'aide sur les canaux IRC là-dessus, hein. Il n'y aura pas de soucis. La première fois qu'on compile soi-même un package, c'est pas évident. Après ça devient vraiment automatique parce que c'est toujours la même chose, configure et puis make et maintenance comme on va voir tout à l'heure. Mais quand c'est la première fois, il ne faut pas avoir honte et demander de l'aide. Donc, une fois...
Mais donc ça c'est l'étape que si par exemple je fais une modification dans la source, je dois compiler le programme pour proposer ma modification, c'est ça ou
c'est ça. Tout à fait. Donc là en fait on n'a pas pris la toute dernière version des sources. Donc là c'est pas sur ça que le développeur travaille. Là, soit on a pris la version stable, donc on a la version que les utilisateurs tranquilles ont chez eux. Donc à la fin, on va faire tous ces efforts-là pour avoir rien de plus que ce que les utilisateurs ils ont. Ou alors on prend la version instable et puis pareil, on n'aura rien de plus que ce que les testeurs avancés ils ont. Mais c'est pour s'assurer qu'on sache déjà faire toute cette partie de compilation. Parce qu'ensuite, le vrai GIMP, celui sur lequel les développeurs travaillent, va demander quelques compétences encore en plus. Donc en fait, on y va par étapes. En tout cas, pour ceux qui n'ont jamais compilé des applications sous Linux, c'est important de passer par ces premières étapes pour s'assurer que si on a des problèmes ensuite, cette partie-là, on l'a déjà bien compris. Voilà. Donc, une fois d'ailleurs. Ça demande des choses, non? Donc une fois qu'on a fait son configure, on fait make et les installs. C'est bizarre que je ne l'ai pas marqué. Tant pis. Et on se retrouve, comme je disais, avec rien de plus que ce que les utilisateurs ont, mais on l'a compilé soi-même. Super. Après, une fois que ça, ça a marché, on peut passer au GIMP qui est dans CVS, qui est donc celui-là, celui sur lequel les développeurs travaillent. Alors, pourquoi on utilise quelque chose d'aussi compliqué? C'est comme Bugzilla, ça a des raisons. Alors, on utilise le CVS de GNOME, qui a une interface web dans laquelle on peut voir tous les projets de GNOME et tous les codes sources. Par exemple, si on prend GIMP, qui doit être là quelque part au milieu, voilà, là on se retrouve avec l'arborescence du projet GIMP tel qu'on l'aura, tel qu'on l'a eu déjà quand on a téléchargé l'archive tout à l'heure du GIMP stable. L'arborescence elle change très peu, hein, donc, et on a les répertoires et puis les fichiers sources. Alors CVS c'est très très pratique pour le développement open source, pour le développement tout court, même tout court, parce que déjà ça garde un historique des fichiers et sources. Ça va nous permettre de voir quelles sont les différences qui ont été apportées à chaque fois. Et puis ça se souvient qui a apporté chaque différence. Donc on peut voir par exemple pour un fichier. Alors, ça c'est le fichier générique, on va en prendre un vrai fichier d'application. On peut voir qui a touché à quelle partie du code et quand il y a un problème, quand il y a un bug qui est rapporté, on sait à qui s'adresser. Grâce à. Par exemple, on va en prendre un sur lequel je travaille moi. Vous allez voir comment ça marche. Il y en a des fichiers. Voilà, grâce à la fonction annotate. Donc là, je vais trop vite, mais c'est pas grave. Ça, c'est la version actuelle du fichier telle qu'elle est chez tous les développeurs. Du moins ceux qui sont à jour. Petit peu petit, je ne sais pas si vous voyez. Et donc à gauche, on voit qui c'est qui est l'auteur de la ligne en question. Et normalement. Ah ben non, je croyais que. Je croyais avoir travaillé là-dessus, mais visiblement, j'y suis pas. Non mais en fait je vous ai menti, je suis pas du tout une développeuse de GIMP. Bon, c'est très décevant. Donc voilà, ça va permettre de garder une trace, et c'est important. Et là, sur ce fichier, vous avez la version. À chaque fois qu'on fait une modification dans le code, on explique pourquoi on l'a faite. Donc là on se retrouve avec tous les messages qui expliquent. Voilà, par exemple, là, c'est Sven Neumann qui est l'un des deux contributeurs principaux de GIMP, voilà, qui a fait un peu de ménage dans le code visiblement. Donc CVS, on revient à notre sujet de départ. Comment on fait pour travailler avec CVS? Il y a une page sur le site de GIMP qui explique ça très en détail, ceux pour qui c'est la première fois, ça peut être intéressant. Bon, c'est en anglais, c'est vrai, je ne pense pas qu'elle ait été traduite en français. En résumé, déjà on installe le logiciel CVS parce que c'est un logiciel. On a une commande qui nous permet de dire où est le serveur CVS avec qui on va discuter. Dans la page que je viens de vous montrer, il y a un fichier de configuration qui vous permet d'avoir des options pour CVS qui sont assez standards. Donc ça peut être intéressant d'aller le récupérer. Ensuite on fait un CVS login en anonyme, parce que pour avoir accès, là on va avoir accès uniquement en lecture à CVS. Donc on va pouvoir prendre des fichiers, on ne va pas pouvoir les modifier directement nous-mêmes. Donc c'est un CVS anonyme, le login on est anonymous, le password n'y en a pas. Et ensuite, on prend le module GIMP, donc avec la commande checkout. je passe hyper vite là-dessus parce que c'est pas le propos de la chose. Si vraiment le développer vous intéresse, tout ça, vous allez pouvoir redemander comment ça se passe et relire plus en détail. Ça permet donc d'aller prendre toutes les sources. Une fois que vous allez avoir fait votre CVS checkup, dans votre répertoire courant, là où vous l'aurez fait, vous allez avoir tous les répertoires de Mint, ce qu'on a vu tout à l'heure, toute l'arborescence, tous les fichiers. Et à partir de ça, on peut refaire un configure, un make, un make install, pour avoir cette fois le programme, la toute dernière version, celle qui est vue que par les développeurs. Et par ceux qui font la même chose que vous en ce moment. Alors, l'étape est un peu compliquée là pour la première fois qu'on utilise CVS. Une fois qu'on voudra mettre à jour, CVS Update suffira, il n'y aura pas besoin de refaire tout ce micmac de commandes en ligne, etc. Donc, une fois qu'on a ça, même chose que tout à l'heure, avec un petit peu plus de complexité, on vérifie bien qu'on a les bonnes versions des logiciels qui permettent de tout compiler automatiquement. Alors c'est pareil, il y a une jolie page sur le site de GIM qui explique que CVS ne fait pas peur et qui vous explique exactement comment, une fois que vous avez réussi à prendre tout le module CVS, comment bien compiler. Donc c'est très semblable à ce qu'on a vu avec le GIMP stable et le GIMP instable, avec une différence: au lieu de lancer configure, on lance autogen.sh avec les mêmes options que ce qu'on pouvait passer à configure. Et là, après tout ça, ça y est, on a un module qui marche et qui est le tout dernier, et on peut voir les dernières options, ce qui se prépare pour le prochain module. D'ailleurs, c'est complètement déconseillé de travailler sur ces fichiers avec ce GIMP-là parce que ça peut casser n'importe quoi. Il peut très bien y avoir un développeur qui vient de mettre une grosse goutte dans le code et puis hop, vous travaillez sur votre fichier, vous gardez des heures de travail, enfin, il faut pas. C'est vraiment juste pour tester, rajouter du code, voilà, tout ça. Surtout ne pas en faire un outil de travail au jour le jour. Alors, quand on est débutant, dans le code, dans le GIMP, comme je l'ai été il y a un an, il y a un mot-clé très intéressant dans Mozilla, c'est un mot-clé qui s'appelle GnomeLove, et qui sert justement aux codeurs débutants. En fait, c'est un mot-clé qui permet de repérer les bugs qui sont faciles à corriger. C'est-à-dire que les développeurs vont dire « ça c'est facile à corriger, donc je ne le corrige pas, je mets le mot-clé GnomeLove, et j'espère que quelqu'un, un nouveau, viendra et essayera, et comme ça, ça nous fera de l'aide en plus. » Donc il y a volontairement des bugs qui sont faciles à corriger, qui ne sont pas corrigés, pour permettre aux nouveaux développeurs de venir s'essayer à la chose. Donc ça c'est le site web de GnomeLove, je vous le dis. Donc c'est une initiative qui est très sympathique, parce que c'est vraiment ça qui m'a permis de rentrer dans le projet. Bon, je suis ingénieur développement, donc je sais coder, mais il y a plein de choses dans le projet GIMP qui sont... particulière que je connaissais pas, et puis c'est un projet énorme, enfin bref, c'est sympathique d'avoir ça. Et puis en général, quand vous venez sur le channel RC des développeurs, vous vous dites je commence à m'intéresser à ce bug facile là, puis ils discutent avec vous, ils essayent de voir où vous en êtes, tout ça. Donc faut pas hésiter à échanger avec les développeurs, ils sont toujours ravis de voir qu'il y a quelqu'un qui essaye de s'y mettre, vu qu'ils essayent désespérément d'avoir plus de développeurs. Donc voilà, ça c'est tous les moyens de contacter l'équipe GnomeLove, qui est une équipe qui est complètement différente de la nôtre, mais dont on profite du mot-clé de recherche dans Mozilla. On l'utilise aussi. Donc, une fois qu'on a récupéré son module CVS, on a quelques répertoires importants qui sont le répertoire app dans lequel il y a vraiment l'application GIMP, donc celui dans lequel la majorité des gens travaillent. Le répertoire data dans lequel il y a les ressources de base de GIMP, toutes les brosses, les gradients, tout ça. Donc c'est là que si on veut rajouter des choses dans le GIMP original, c'est là qu'on les met. Si on veut juste les rajouter en tant qu'utilisateur, il n'y a pas besoin de passer par tout ça. Juste se rajouter pour soi une brosse, c'est beaucoup plus facile que ça, heureusement. Bon, ça c'est pour changer le groupe de départ de ressources. Donc les plugins, donc ça c'est les plugins qui ont été intégrés à GIMP, puisqu'il y a des plugins qui sont déjà dans GIMP, qui sont offerts dès qu'on installe GIMP, et puis ensuite il y a les autres plugins qui sont sur le site du registre des plugins, et qui peuvent être écrits par par un tas de gens et qui, qu'on rajoute soi-même à la main, comme des extensions Firefox. Et puis, pour ceux qui font de la traduction, donc ça va être dans le répertoire PO. Dans le répertoire PO, il y a ensuite un répertoire par langue. Et là, je ne connais pas du tout parce que je n'ai jamais fait une traduction. Pourtant, je pourrais, mais on ne peut pas tout faire. Alors, maintenant, comment on fait vraiment? Une fois qu'on a trouvé un problème ou qu'on veut juste essayer de faire une modification pour voir ce que ça donne, donc nous, déjà on essaye de se retrouver dans l'arborescence, mais avec l'aide des développeurs, c'est toujours possible. Et si on essaye de corriger quelque chose ou d'apporter une nouvelle fonctionnalité dans le but, qu'elle soit acceptée par les autres développeurs, il faut faire très attention au style du code. Il faut absolument que le style du code soit complètement homogène au travers de tous les fichiers qu'on va rencontrer dans l'application. C'est très important pour que si quelqu'un reprend votre travail, il puisse lire facilement le code. S'il y en a un qui utilise des parenthèses avec un espace après ou un espace avant, enfin, c'est des choses qui ont l'air toutes bêtes, mais c'est hyper important d'avoir quelque chose de bien homogène pour que quand on regarde un fichier, on sache vraiment le lire et on le... C'est-à-dire on le comprenne comme si c'était un texte, mais ça aide vraiment à la compréhension d'avoir quelque chose d'homogène. Donc le style du code est expliqué sur les sites web un peu partout, et puis de toute façon il suffit d'imiter ce qu'on voit déjà dans les fichiers. Et il y a pour VI Improved, etc. et Emacs, il y a des fichiers de configuration que vous pouvez aller chercher dans la fac de GIMP et qui vous permettent de automatiquement, voilà, je montre ça à ça à quoi ça ressemble, qui vous permettent automatiquement d'avoir les bonnes tabulations qui font deux espaces, enfin tout ce qu'il faut pour que vous ne vous retrouviez pas avec un fichier qui est une modification qui est refusée juste parce que vous avez mis trop d'espace ou des choses comme ça. Ce sera dommage. Une fois qu'on a fait sa petite modification, qu'on a compilé, qu'on a revu la nouvelle version de GIMP avec sa petite modification, on se dit ouais c'est génial, ça marche, il faut absolument que je montre ça aux développeurs, on utilise diff. Diff, c'est un programme qui permet de faire la différence entre deux fichiers et de montrer ce qui a été enlevé, ce qui a été ajouté, ce qui a été modifié. Donc, CVS-Diff, ça va permettre de faire la différence entre le fichier que vous avez sur votre disque et la version qui est dans le serveur CVS, donc de montrer vraiment ce que vous avez modifié. Du coup, ça fait un petit fichier, parce que ça montre que ce qui est enlevé, ce qui est rajouté, et c'est plus facile à lire pour les autres développeurs, ils voient exactement ce que vous avez modifié. Donc, avant de l'envoyer au développeur, on regarde quand même le résultat de son CVS-Diff. Et puis, on vérifie qu'on n'a pas laissé de ligne de debug ou de choses comme ça. Alors c'est pareil, sur le site de GIMP, il y a une jolie aide pour faire tout ça. Là, je vous résume rapidement comment ça marche. On sauvegarde le fichier en général en point patch, mais ça, c'est pas très important. Et ensuite, on va l'attacher à un bug dans Mozilla. Alors, soit il y a déjà un bug qui existe pour le problème, ou une demande de nouvelles fonctionnalités si c'est quelque chose de nouveau. Donc, auquel cas, on l'attache au bug en question. Soit c'est quelque chose qu'on vient de trouver tout seul, que personne n'a rapporté. Donc, on crée un nouveau bug et on attache le patch au bug en question. On explique dans les commentaires de Mozilla ce que fait le bug, ce que fait le patch, pardon, pourquoi on l'a fait comme ça. En général, ça ne marche jamais du premier coup. Il y a un développeur qui va vous dire « Ah oui, bon, c'est bien, mais là, tu aurais plutôt pu faire comme ça, c'est plus propre, c'est plus proche de la façon dont nous on le fait, donc il faudrait changer ça. » Il ne faut surtout pas s'énerver et partir en courant. C'est normal que ça ne passe pas du premier coup. Il y a beaucoup de choses à apprendre au départ. Surtout sur... on ne peut pas savoir exactement quelles sont, eux, leurs manières de voir, leurs manières de coder. Donc, on fait les modifications, gentiment, sans rien dire. Il y a une vraie approche d'humilité quand on commence. On ne peut pas se permettre de dire « Non mais je m'en fous, moi c'est comme ça, tu le prends, sinon je m'en vais. » Parce que ça ne marche pas, ok, pas tant. Donc, il faut se rentrer dans l'équipe et accepter ce que les développeurs principaux demandent de faire, sinon ça ne marche pas. Et donc, quand on veut ajouter une nouvelle fonctionnalité, en général, c'est plus de changements quand on corrige juste un bug. Corriger un bug, des fois, ça peut être l'histoire d'une ligne à changer et là, c'est bon. Quand on veut ajouter une nouvelle fonctionnalité, et qu'on propose un patch pour ça, c'est bien aussi d'en discuter sur leur liste de développement, leur liste de diffusion aux développeurs. Comme ça, ils peuvent avoir des idées, et avant que vous fassiez tout votre travail et que vous proposiez votre patch, des fois, ils peuvent avoir d'autres idées sur comment faire l'interface de la fonctionnalité ou des choses comme ça. Ça vous évite de revenir plein de fois dessus. Alors, si on décide à contribuer au code, quand on commence, donc, on essaye de contacter les développeurs, de voir comment l'équipe s'entend, tout ça, discuter avec eux. On fait sa première contribution en faisant un patch et en l'attachant dans Mozilla. Après, il est accepté ou pas. Normalement, au bout d'un moment de correction, il devrait être accepté. Et puis, on en fait plus, de plus en plus. Si on a aimé ça, en tout cas. Et puis, au bout d'un moment, les développeurs, ils en ont marre de devoir relire vos patchs et puis de devoir ensuite les appliquer eux-mêmes pour les redistribuer à tous les développeurs, parce qu'une fois que le patch est accepté, c'est ça qui se passe. Eux, ils le mettent dans leur version, et comme ils ont un accès en écriture au CVS, ils sauvegardent ça dans le serveur CVS, et ensuite, tous les développeurs qui vont mettre à jour leur arbre, tout le monde va avoir votre modification. Donc, une fois qu'ils commencent à en avoir marre et qu'ils trouvent qu'ils peuvent vous faire confiance et que bah, c'est bien, vous faites, ça a l'air bien, on vous donne un accès en écriture au CVS. Donc, ça n'arrive pas tout de suite, je crois qu'il m'a fallu un an pour avoir un accès en écriture, mais c'est un jour historique, et puis surtout on commence à avoir très très peur. La première fois que j'ai fait ma première écriture dans le serveur CVS, j'avais hyper peur, je tombais, je me disais, ah, là, si je fais la moindre connerie, tout le monde va s'en rendre compte, parce que dès qu'on fait une écriture, dès que tout le monde met à jour, tout le monde voit ce que vous avez fait, et puis d'ailleurs, depuis que je contribue, ça m'est déjà arrivé de complètement casser le code en écrivant dans le CVS, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et puis, une fois qu'on a bien l'habitude et qu'on est bien à l'aise avec CVS, avec le code, tout ça, on commence à aider les nouveaux contributeurs qui veulent approcher du code. Voilà, donc c'était une grosse partie sur le code parce que c'est quand même le plus compliqué, mais je vous rappelle que c'est pas la seule façon de contribuer et que pour ceux qui aiment la documentation, etc., il y a d'autres manières de faire. Donc, vous avez des questions?
Sinon. Toi, tu étais ingénieur au départ, tu n'as pas dû apprendre le langage C.
J'ai pas dû, si, j'ai dû apprendre le langage C parce que, en fait, mon école d'ingé, je m'ennuyais beaucoup et je ne suis jamais allée au cours de C. Pas bien, pas le vert, et dans mes boulots, je n'ai jamais eu à faire de C. Donc quand je suis arrivée sur l'IP et que j'ai vu que c'était en C, je me suis dit, merde, j'aurais dû quand même aller au cours. Et c'est pas grave, enfin. Du fait que je suis quand même en développement, j'ai un petit peu l'habitude de coder, donc même si c'est dans d'autres langages, il y a quand même des choses que je retrouve. Et au début, il y a des choses que j'ai faites, ça c'est sûr, mais au fur et à mesure, on m'a appris, là tu fais des conneries pour ça, et puis au fur et à mesure, j'ai appris exactement comme quand j'apprends dans un job un nouveau langage.
Mais t'as l'impression qu'il y a des gens qui deviennent contributeurs, qui partent de rien?
Je pense que c'est possible, mais il faut vraiment pas avoir peur de se faire jeter de temps en temps. Parce que c'est clair qu'il y a des moments où j'ai dit des conneries et je me suis fait embêter comme une poisson pourrie par les développeurs principaux. Faut accepter le fait, faut vraiment avoir une attitude d'humilité pour accepter le fait qu'on peut vous dire que malgré tout le temps que vous y avez passé, c'est vraiment nul, c'est quoi, il faut tout recommencer. Donc c'est sûr qu'il y en a qui trouvent ça franchement difficile et pas très. Comment dire. Perdu mes mots, mais ça donne rien par rapport à ce qu'on.
À ce que nous disons.
Voilà, pas assez valorisant. Mais en fait, une fois qu'on a subi tout ça et que son premier patch est vraiment accepté, ça donne une sacrée émotion. Enfin, je sais que pour moi, ça a été vraiment super. Enfin, à chaque fois que je fais une modif et que ça corrige un bug, tout ça, pourtant, ça fait quand même maintenant 2 ans, même maintenant, quand je fais des modifs qui corrigent des bugs, je suis super contente quand les gens me disent, ah, c'est bien, ça a corrigé. C'est valorisant malgré tout. Mais c'est vrai que quand on démarre avec rien, quand on part de rien, c'est plus difficile, c'est évident. Mais si on s'accroche, pour moi, n'importe qui a vraiment déjà l'esprit suffisamment clair, logique pour faire les choses bien, correctement, quelqu'un de vraiment bouillon, il y a des gens qui ont essayé, même des gens qui s'y connaissaient bien, on sait, qui ont essayé de participer et qui refusaient de vraiment rentrer dans qui refusaient de faire le style de code qu'ils utilisaient, ils trouvaient ça nul, non, deux espaces, les fonctions, c'est nul, je ne peux pas faire ça. Hein.
Ben voilà, c'est au bout d'un moment, quand on s'est rendu compte que ça ne marchera jamais, ben tant pis, quoi. Ça ne peut pas être un producteur. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a un certain esprit de bien rentrer dans le cadre, dans le moule. Mais pour moi, les compétences techniques ne changent pas le fait qu'on puisse devenir un contributeur. Ouais. Il y a des gens qui contribuent une fois par an, qui essayent un patch une fois par an, de temps en temps, et puis parce que ça leur prend vachement de temps de réussir à faire leur truc bien. Mais c'est pas grave, c'est bien quand même. Il y a des gens qui contribuent une seule fois, c'est pas grave, c'est bien quand même.
Et il y a beaucoup de femmes dans...
Ah. Alors, j'en connais deux autres dans le projet BIM. Je suis la seule vraiment développeuse. Il y a une autre personne qui a un accès en écriture au CVS, mais qui ne l'utilise pratiquement pas. Mais qui fait aussi des livres sur BIM, et qui fait des plugins pour BIM. Donc c'est quand même quelqu'un qui s'est codé, mais je pense qu'elle ne trouve pas la motivation pour contribuer à le développement. Et il y a une autre femme qui fait des... plus pour les utilisateurs, qui fait des tutoriels, tout ça. Donc, pas beaucoup de femmes. Un accueil impeccable. Il n'y a pas de différence, c'est le fait que je sois une femme. Et j'ai contribué à d'autres projets avant où je suis partie parce qu'on voyait en moi d'abord la femme et ensuite seulement à la développeuse et j'aime pas ça. Je vais être considérée comme les autres. Donc, après, ça c'est une question de.
C'était quoi le premier match?
Le premier patch que j'ai fait, alors c'était sur un bug donc, avec le mot-clé GnomeLove. Donc en général, quand on cherche les bugs GnomeLove, on peut essayer de faire une recherche là. Est-ce que j'ai encore un Mozilla? Non. On tombe sur une liste d'une vingtaine de bugs en général, qui sont encore ouverts avec le mot-clé GnomeLove. Et alors, le tout premier, c'était pour corriger l'interface d'un plugin qui était trop... Ça utilisait des éléments de GTK, puisque GIMP utilise GTK comme interface graphique. Ça utilisait des éléments trop vieux et il fallait les mettre à jour par rapport aux nouveaux éléments qui avaient été créés par GTK. Donc un truc hyper simple, vraiment, juste de l'interface graphique, pas de code graphique compliqué où il faut regarder les canaux RGB, tout ça. Vraiment que de l'interface, rien d'autre. Et ça m'a quand même pris, je sais plus, un mois ou deux à réussir à faire le patch correctement. Mais bon, je suis pas très rapide, moi. Alors, on va voir ce qu'on a là. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Le pire, c'est que la première fois que j'ai regardé la liste de GnomeLove, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est trop compliqué. Ah, 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 non. Zut. Je ne peux plus enlever ça. Bon, tant pis, on va tout prendre. Ah, mais j'ai pas pris GIMP encore. GIMP, GIMP, GIMP. Voilà. Avec GnomeLove, qui sont encore ouverts. Donc, vous allez voir, voilà. Il y a une liste de combien 24. On prend le premier. Déjà, rien que le titre, je ne comprends rien. Donc, c'est normal hein, de regarder les bugs et de rien comprendre. J'ai mis un moment déjà à choisir mon tout premier bug. Alors, qu'est-ce qu'il raconte lui? Il voudrait... Ah, d'accord. En fait, vous avez une image et autour de l'image, entre le bord de la fenêtre et le bord de l'image, il peut y avoir un espace. Ça permet, entre autres, de commencer une sélection depuis plus loin que le bord de l'image, pour faire par exemple une sélection elliptique qui est qu'un demi-cercle et tout ça. Et il veut pouvoir dire que je veux tout le temps avoir au moins 10 pixels de bord dans lequel il peut commencer à tracer. Donc voilà. Donc visiblement, les développeurs de GIMP ont l'air de considérer que c'est facile à corriger. Alors, un autre développeur qui dit que ouais, ça a l'air bien. Sven Neumann qui dit que c'est simple à faire. Moi, je vois pas comment, mais c'est pas grave. Donc, non, mais franchement, même au bout de 2 ans, je suis censée commencer à connaître. Il y a pourtant des parties du code sur lesquelles j'y connais absolument rien. Mais il suffit de commencer, d'en choisir un. Comment? Ça, je sais pas. Celui-là, il a l'air bien. Sauvegarder toutes les images.
Ouais.
Effectivement, celui-là, ça fait longtemps que j'en entends parler. Donc, quelqu'un qui veut quitter GIMP et de pouvoir sauvegarder toutes les images d'un coup sans devoir passer sur chaque. Effectivement, ça, c'est que de l'interface, a priori.
C'est sauvegarder une image, c'est une fonction qui est déjà implémentée. C'est juste faire en sorte que quand on clique sur le bouton quitter ou quand on quitte dans le menu, ça parcourt la liste des images, ça les sauvegarde, enfin ça demande à l'utilisateur s'il veut tout sauvegarder. Et ça, voilà. Donc a priori, c'est logiquement en tout cas, c'est pas compliqué à comprendre ce qu'il faut faire. Bon, après, aller le faire dans le code, c'est une autre histoire. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher dans le code où se passe la sauvegarde des fichiers, où on gère quitter l'application. Après, on essaye de faire des petites modifs pour voir si déjà on a bien, si on est bien au bon endroit. Et puis après, on essaye de corriger vraiment le bug. Si on est vraiment bloqué complètement à un moment, on est dans le moteur, ben là, j'ai essayé de faire ça, ça fait pas ça, pourquoi, tout ça. Il faut quand même toujours un petit peu essayer soi-même avant d'aller demander de l'aide aux développeurs. Pas la peine de leur dire « Bon, j'ai choisi ce bug, comment je le corrige ?» Parce que ça n'a pas grand intérêt s'ils le font à votre place. Voilà, ça répond.
Est-ce que ça t'arrive de faire des sessions de programmation à plusieurs?
Ouais, ça arrive seulement pendant les conférences, donc à peu près une fois par an. On est un petit peu tous étalés. Il y a beaucoup de développeurs en Allemagne, en fait, les deux développeurs principaux sont allemands. Et donc au Libre Graphics Meeting, on a fait des sessions de code ensemble, mais ça arrive pas souvent.
Et tu n'as pas des petits code stream, par exemple, des choses comme ça qui permettent de le faire en ligne?
En fait, on peut être plusieurs à travailler sur le même fichier, c'est ce que CVS permet d'ailleurs, et sur les mêmes fonctionnalités. Bon, en général, on se parle quand même un petit peu. Donc on le fait uniquement virtuellement, mais on va chacun de son côté pour le code migratoire. En tout cas, il y a peut-être des projets où ils le font, hein, sans doute, mais...
Dans mes expériences de mentorat, ça permet d'avoir... Mais la personne qui débute en conférence, parce que justement on est là et on regarde.
D'accord, ouais. Non, effectivement, ça n'a jamais été fait pour Gimp. Par contre, en ce moment, il y a le Google Summer of Code, Gimp y participe, donc il y a 8 personnes qui vont être mentorées par des développeurs de Gimp pour faire des modifications relativement importantes, puisque ça va leur prendre 3 mois quand même. Donc là, il y a un vrai programme de mentorat, mais bon, ça c'est financé par Google, c'est autre chose. Voilà.
Et le statut des développeurs, c'est quoi en gros? C'est des gens qui travaillent, qui sont engagés pour travailler sur Gimp?
Alors, on est tous. Tous, on travaille. On a chacun. On prend sur notre temps libre pour développer Gimp. On a pour la plupart des employeurs qui sont un petit peu compréhensifs, et s'ils nous voient en train de corriger, de regarder le Mozilla Gimp au boulot, ils vont rien dire. Je sais que mes employeurs sont plutôt contents que je fasse de l'open source parce que quelque part ça leur apporte quelque chose de connaître d'autres méthodes de développement. Enfin, ça dépend, c'est obligé à faire. On reçoit pas mal de donations, mais pas suffisamment pour permettre de payer quelqu'un à plein temps sur le boulot. Donc ça nous permet d'organiser des conférences, des choses comme ça, mais pas de payer quelqu'un à plein temps. Donc personne n'est payé pour ça. Ça vous donne une petite idée de comment contribuer. C'était le but. Bon, et puis on a créé un compte pour rien. C'est pas grave, de toute façon, avec l'impact, on a vu déjà le principal. Ben voilà, c'est terminé.
On a des distributions.
Moi, je suis sous Gentoo. C'est pas très courant dans les développeurs d'être sous Gentoo parce que la plupart des gens qui sont sous Gentoo sont des gens qui ont envie de frimer un peu. C'est pas mon cas. Donc, je suis la seule sous Gentoo parmi les développeurs. Il y a beaucoup de Debian. Voilà.
J'avais compris ce truc de la convolution matrix.
Ah là là.
Je cherche désespérément quelque
chose. Moi, je connais rien. Alors, c'est pas moi.
D'accord.
Non, c'est pas moi.
T'as cette fenêtre-là dans les menus des filtres et t'as, je sais pas, une dizaine de cases avec tout écrit zéro au départ. Et tu peux rentrer des nombres et ça fait des trucs. Alors,
cela dit, est-ce que tu as essayé de regarder dans le manuel ?
Non.
Parce que peut-être que justement ce sera super bien expliqué. Je suis toujours épatée comment le manuel m'aide quand il y a des trucs que je ne connais pas. Donc, il faudrait essayer.
Et voilà, c'est des cases avec le nom de magie.
Ça fait un peu magique, en effet. Ben merci.
Merci beaucoup.
Et puis j'espère qu'il y en a quelques-uns que ça tentera, pour guide ou pour autre chose.
Oui, c'est bien de voir un
peu. Oui, et puis la structure, vous savez comment ça marche.
Est-ce que tu as choisi GIMP parce que tu utilisais GIMP comme utilisatrice?
Alors, j'avais jamais utilisé GIMP quand j'ai commencé à connaître GIMP. C'est juste que j'aime bien le graphisme. Je venais d'un projet qui n'avait rien à voir, qui était un truc de communication et où je m'étais découvert. Et j'ai pris GIMP complètement au pire. Alors, je ne suis pas un exemple de comment choisir un projet parce que c'était vraiment au pire. Et puis, je me suis retrouvée dans une équipe qui m'a bien plu et voilà. Je pense que
j'y ai
resté un bon moment.
C'est
ce projet
que tu as
été ? Non, il y en a eu d'autres avant, et il y en a eu un tout petit qui est rapidement mort parce qu'en fait, malheureusement, les contributeurs n'avaient pas assez de temps et donc on s'est retrouvé à un point où il n'y avait plus rien qui avançait. J'espère que ça n'arrivera jamais à GIMP. Pour l'instant, les développeurs principaux réussissent à faire tenir le tout. Après, j'ai voulu changer un peu et. Comme je disais, on m'a surtout vu comme une fille avant d'être une développeuse.
Et dans quel genre de développeuse? On est censé, non?
Ah, je vais dénoncer. Allez, c'était le channel de GIMP francophone. De GNOME francophone. Donc, en même temps que j'étais venue sur GIMP, j'avais commencé à regarder un peu sur GNOME parce que j'utilisais GNOME à l'époque. Et je suis venue dans leur channel pour voir. Comment était l'équipe, de quoi ils parlaient, tout ça, et ça m'a pas plu du tout. Voilà. Donc c'est GIMP qui est donné dans l'histoire.
Est-ce que toi, les sentiments, ça, c'est spécifique à la communauté du GIMP francophone et à l'échelle du grand?
Le fait d'être vue en tant que fille?
Ouais.
Je pense que les francophones, c'est pire chez les francophones qu'ailleurs.
Parce
que.
Chez les Français.
Voilà. Tout à fait. À chaque fois que j'ai été dans des communautés francophones, c'est beaucoup plus marqué que dans les communautés anglophones. Enfin, ce qu'il y a, c'est que les communautés anglophones, en général, ça englobe plein de gens de pays différents, hein. C'est pas forcément que des anglais pur souche. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus marqué chez les Français. Parce que même dans le canal d'aide aux utilisateurs, entre le francophone et l'anglophone, je vois une différence aussi. Quand tu dis que t'es une fille,
ah, j'ai une fille.
Ah oui, tout à fait, moi mon pseudonyme n'est pas détectable, hein. Je m'appelle pas Barbara, donc ils savent pas au départ que je suis une fille. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on discute un peu et si jamais tu le dis, la plupart des réactions c'est tout de suite les gens sont vachement plus intéressés. C'est dommage quoi. Alors on est dans ça. C'est ce qu'il disait aussi, c'est ça ? Que dans les communautés francophones, c'était plus marqué ?
Non, on a discuté, oui, il y a
certaines questions.
Là aussi, ça paraît pas dans le rapport de Facebook.
J'ai lu,
effectivement. Tu l'as
lu ? Ouais, enfin. Disons que j'ai parcouru certaines parties. J'ai pas lu en partie encore.